Bienvenue dans le podcast « Où va l'argent ?» de Transparency International France. Je suis Charlotte Palmieri.
Et moi, Sarah Brimbeuf.
Dans cet épisode, nous vous proposons une immersion au cœur de la justice financière et du quotidien des magistrats qui traquent les flux financiers illicites. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Simon. Vous êtes premier vice-procureur au sein du Parquet national financier, qui est en première ligne dans la lutte contre la grande délinquance financière. Fort d'un parcours au sein de juridictions, mais aussi au ministère de la Justice, vous avez une expérience très diversifiée, susceptible de nous apporter un éclairage précieux sur les outils, les défis, mais aussi les limites des enquêtes sur lesquelles vous travaillez. Jérôme Simon, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors tout d'abord, en question d'introduction, nous aimons bien poser la question suivante à nos invités. Nous avons décidé de nommer ce podcast « Où va l'argent ?» Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Où va l'argent? D'où vient l'argent? C'est au cœur même de la mission du Parquet national financier que d'identifier les flux, généralement les flux illicites, ou dans le cadre notamment de la fraude fiscale, mais aussi du détournement d'argent public. Donc à cette question « Where does the money go ?», on serait tenté de répondre « I want my money back », c'est-à-dire « Je suis, en tant que magistrat du PNF avec l'ensemble de mes collègues, à la recherche des meilleurs moyens de retrouver l'argent détourné, l'argent sale ». Donc je crois qu'on est vraiment au cœur de la problématique de la lutte contre la délinquance en col blanc lorsque l'on pose cette question.
Alors il y a une nouvelle donnée qui a été publiée le mois dernier. En 2025, la France occupe désormais la 27e place dans le classement proposé par l'indice de perception de la corruption de Transparency International. C'est un score, on le sait, qui est en constante régression depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous êtes surpris par ce score et est-ce qu'on doit le voir quelque part comme un signal d'alerte ?
Alors évidemment, le fait de rétrograder dans l'indice de perception de TI, c'était évidemment décevant. Après, je crois qu'il faut aussi savoir prendre cet indice pour ce qu'il est, c'est-à-dire un indice, vous l'avez dit, de perception. C'est-à-dire la manière dont nos concitoyens perçoivent la manière dont les pouvoirs publics s'emparent de la lutte contre la corruption et autres infractions assimilées.
Depuis 1995, l'ONG Transparency International publie chaque année un indice de perception de la corruption, aussi appelé IPC, qui classe les pays selon le degré de corruption perçu dans un pays. L'indice est élaboré à l'aide d'enquêtes réalisées auprès des milieux d'affaires, mais aussi d'experts. C'est un indice qui mesure la perception qu'a le secteur privé du degré de corruption des responsables publics au sein d'un pays donné.
C'est un indice de perception, il est subjectif, il doit nous interpeller en ce qu'il ne manifeste pas forcément un retour en arrière des efforts consentis. Je crois que, comme l'OCDE a pu le relever dans ses dernières évaluations de la France a amélioré son investissement, notamment sur le plan judiciaire de la lutte contre la corruption. Mais cet indice a ce mérite de montrer les attentes qui sont celles de nos concitoyens et qui manifestement sont fortes, et des concitoyens qui peuvent être déçus par le fait que les choses ne vont pas assez vite, pas assez loin. Donc c'est un appel pour nous, effectivement, à plus de vigilance et plus d'investissement. Et je crois que sur ces dernières années, nous avons fait la preuve qu'au moins sur le plan de la politique pénale, les choses avaient changé. Il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu des évolutions législatives, la loi de 2013 qui a créé le Parquet national financier, la loi Sapin 2 qui a modernisé l'arsenal législatif en matière de lutte contre la corruption internationale, de grandes circulaires comme la circulaire Belloubet du 2 juin 2020 sur la corruption d'agents publics étrangers. Donc il y a une vraie volonté effectivement d'être proactif sur ces sujets. Mais peut-être, effectivement, est-il temps qu'un nouvel élan législatif et un nouvel élan en termes de politique pénale viennent aussi rassurer nos concitoyens sur l'engagement qui est celui de la politique judiciaire.
Alors, vous avez mentionné la loi 2013 et la création du Parquet national financier, au PNF. Comment est-ce que le Parquet national financier travaille-t-il et comment, selon vous, a-t-il redéfini la manière dont on lutte contre la délinquance économique et financière en col blanc en France ?
Alors, c'est une question qui est très intéressante et qui invite à se replonger un peu sur le temps long et se rappeler que finalement la notion de spécialisation de la justice judiciaire en matière de lutte contre la délinquance en col blanc n'est pas si ancienne que cela. C'est véritablement à l'orée des années 80, véritablement avec des grands scandales comme l'affaire Urba par exemple, que les premières réflexions, les premiers jalons sont posés sur la spécialisation au sein du parquet de Paris de l'action en matière de délinquance en col blanc. Et puis il faut attendre effectivement 2013 pour qu'un vrai parquet autonome soit créé. Un parquet qui est doté, je dirais, en mode chevau léger, hein. C'est un parquet qui est composé d'une vingtaine d'effectifs magistrats, ce qui n'est pas finalement énorme par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres grandes juridictions comme le parquet de Paris, le parquet de Bobigny ou de Marseille, mais qui a le mérite d'avoir une équipe très soudée, très ramassée et avec des profils de haute compétence technique pour pouvoir appréhender au mieux tous les grands dossiers dont le PNF se saisit. Donc cette spécialisation, elle passe notamment par la constitution de binômes. Hein, les magistrats du parquet national financier travaillent toujours à deux sur les dossiers. Ça, c'est une règle d'or qui a été instituée par la première procureure de la République financière, Eliane Houlette, et qui a été conservée jusqu'à ce jour, qui est, de l'avis général, plutôt une bonne solution, d'avoir toujours ce double regard sur des dossiers qui sont extrêmement technique d'une part et extrêmement sensible d'autre part.
Alors, parmi les acteurs qui peuvent être mobilisés dans ces enquêtes, on le sait, Transparency International France a déposé plusieurs plaintes dans des affaires de grande corruption internationale, de blanchiment, aussi appelées les affaires dites des biens mal acquis. Quelle est la place que vous semble pouvoir aujourd'hui prendre des organisations de la société civile, des ONG, comme Transparency dans ce type d'affaires ?
Alors, le rôle de Transparency International et des ONG agréées est tout à fait fondamental dans l'action du parquet national financier, puisque ces organisations agissent, je dirais, comme des vigies, des watchdogs, diront nos confrères anglais, donc qui repèrent selon leurs propres moyens des choses qui peuvent leur paraître constituer une infraction et qui le signalent au parquet ou à un juge d'instruction dans le cadre d'une constitution de partie civile. Donc c'est un rôle qui est absolument essentiel, on l'a vu dans nombreux dossiers, hein, notamment par exemple l'affaire des sondages de l'Élysée ou dans le dossier des biens mal acquis. On a besoin d'avoir effectivement des représentants de la société civile qui exercent ce rôle de vigie pour nous signaler les affaires et après aussi pour s'associer lors des poursuites et présenter éventuellement dans l'intérêt de ces organisations d'éventuelles demandes de dommages et intérêts devant les juridictions. C'est assez... Alors, chez nous, ça nous paraît aujourd'hui assez naturel. Mais pour avoir siégé un certain nombre d'années en tant que co-chair de la délégation française auprès du groupe anticorruption de l'OCDE, j'ai pu observer que c'est une pratique très franco-française, ce rôle reconnu aux ONG, en tout cas parmi les pays de l'OCDE, peut-être cela existe-t-il d'autres pays au-delà de l'OCDE, mais au sein de l'OCDE, on fait assez figure d'exception, voire même d'avant-gardiste sur ce sujet. Donc qui montre aussi une certaine forme de vitalité du système judiciaire français qui est en pointe. On est en pointe sur la création d'un parquet national spécialisé, sur le rôle qui est reconnu aux ONG. Enfin, il y a voilà, un certain nombre de choses que d'autres pays nous envient sans forcément avoir encore eu le courage ou l'opportunité de franchir le pas pour se doter de structures identiques.
Tout à fait, on nous l'envie et pour travailler avec des confrères, des consoeurs d'autres organisations non gouvernementales qui travaillent dans des pays voisins européens ou de l'OCDE, c'est en effet un mécanisme très dynamique et qui permet véritablement de changer la manière dont on lutte contre la corruption en France du point de vue de la société civile. Vous mentionniez tout à l'heure l'amélioration avec la loi Sapin 2 de l'arsenal répressif des autorités de poursuite, notamment avec la création de la Convention judiciaire d'intérêt public ou CEJIP. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Les entreprises qui font l'objet de poursuites pour des faits de corruption peuvent éviter un procès en négociant une CEJIP avec le ministère public, en l'occurrence le parquet national financier. 10 ans après la création de cet outil, quel bilan en tirez-vous et quelles sont, selon vous, les perspectives d'amélioration ?
Alors, le bilan qu'on peut tirer de la Convention judiciaire d'intérêt public, c'est que finalement cet instrument transactionnel est désormais bien ancré dans le paysage judiciaire français, notamment dans les pratiques du parquet national financier. Alors, il faut avoir à l'esprit que ça n'était pas absolument gagné, puisque à l'origine du premier texte de projet de loi de Sapin 2, qui avait été à l'époque présenté à la section de l'intérieur du Conseil d'État, donc j'avais la... l'honneur d'être commissaire du gouvernement pour soutenir ce texte sur lequel j'avais travaillé. La section de l'intérieur du Conseil d'État avait décidé de disjoindre de sa saisine le texte sur la convention judiciaire d'intérêt public en estimant que c'était en opportunité pas un bon dispositif cohérent avec la culture juridictionnelle française. Donc c'est un texte qui a été ensuite réintroduit par voie d'amendement parlementaire et qui a fort heureusement été voté par le Parlement, mais qui a donné lieu à beaucoup de discussions, parce que cette méfiance du Conseil d'État, on l'a retrouvée aussi près d'un certain nombre de représentants de partis politiques qui aujourd'hui encore ont un regard assez sceptique sur la justice pénale transactionnelle. En réalité, ce qu'on peut en dire aujourd'hui en toute objectivité, c'est que les principales critiques portées contre l'instauration de la CEJIP ont vécu. L'une des principales critiques consistait à dire « oui, c'est une manière, en signant cette transaction, pour pas cher, de acheter son innocence et sa tranquillité ». Alors en réalité, quand on voit les montants des amendes de transactions qui sont prononcées dans le cadre des CEJIP du parquet national financier, on parle de millions, de centaines de millions, voire même, en cas d'Airbus, de milliards d'euros. Donc on est même très loin des montants d'amendes qui, jusqu'à présent, ont pu être prononcés dans le cadre d'une audience judiciaire classique. Donc ça, je crois que ça permet effectivement de relativiser ces critiques initiales, qui n'étaient pas illégitimes. On peut s'interroger quand on a un instrument nouveau sur sa pertinence, son utilité, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a la preuve effectivement que ce n'est pas, loin s'en faut, de la justice bradée. D'autant que, au-delà même du texte de loi qui a créé la CEJIP, nous avons, au parquet national financier, développé une approche lors des audiences de validation qui est très tournée vers la pédagogie et vers l'explication. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de soumettre un projet de CEJIP au président du tribunal pour qu'il le valide. On prend le temps, dans une audience publique, en présence de représentants de la société civile, en présence de médias, de journalistes, eh bien, d'expliquer l'origine de cette CEJIP, les éléments de l'affaire, les éléments de mise en cause et le calcul de l'amende et d'éventuels programmes de mise en conformité. Donc il y a un vrai travail pédagogique qui est fait par le PNF, qui n'est pas d'ailleurs imposé par la lettre du texte, mais que nous faisons parce que ça nous paraît d'intérêt public, pour le coup, d'être complètement transparent sur les raisons qui nous ont amenés à négocier une CEJIP et les faits de l'affaire en cause. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Donc la CEJIP, c'est effectivement un instrument d'autant plus important que il peut être amené à être utilisé sur un champ d'infractions relativement limité. On parle des infractions de corruption et des infractions de fraude fiscale ou de leur blanchiment. Voilà. À l'heure actuelle, la CEJIP financière, c'est autre chose pour la CEJIP environnementale, mais la CEJIP financière ne peut être cantonnée qu'à ce domaine assez restreint d'infractions. Une des questions qui est posée sur l'avenir de la CEJIP, c'est quid d'une éventuelle extension à d'autres domaines d'infractionnels dans lesquels le parquet national financier exerce sa compétence. Pour mémoire, l'action du parquet national financier, c'est 4 blocs de compétences. On a à peu près 45% des affaires qui touchent aux atteintes à la probité, donc la corruption, 47% qui touchent à la matière fiscale, fraude fiscale ou blanchiment, 5% pour le boursier et résiduellement pour les atteintes à la concurrence. On peut se poser la question de savoir si demain on ne pourrait pas utilement étendre le champ de la CEJIP, par exemple aux abus de marché, à la matière boursière, mais également en matière d'atteinte à la concurrence type entente illicite, qui sont deux domaines d'action également du PNF, et peut-être ainsi faire émerger plus d'affaires. C'est une question posée, hein. Je n'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais effectivement c'est dans les termes du débat général.
Très bien. Toujours sur le futur de la CEJIP, ou en tout cas les lendemains, 10 ans après sa création, dans un rapport publié en 2024, Transparency International France s'était interrogé sur la place de la victime dans ce processus de règlement des poursuites, ce processus alternatif de règlement des poursuites, et nous constations que celle-ci occupait parfois, voire souvent, une place résiduelle, notamment dans les CEJIP corruption plus particulièrement. Qu'en pensez-vous ?
D'une manière générale, c'est un sujet auquel on est particulièrement sensible au Parquet national financier, c'est cette question de la place des victimes, sachant que dans nos contentieux, identifier précisément les victimes directes de l'infraction n'est pas chose aisée. Alors, on le voit bien pour les infractions fiscales, c'est l'État, donc l'ensemble de nos concitoyens derrière qui payent des impôts. Mais si on parle par exemple de corruption, ce n'est pas absolument évident d'identifier qui est immédiatement et directement victime des faits de corruption. Dans les affaires en corruption internationale, de bien mal acquis, on a aujourd'hui plutôt pris le pli de considérer que les populations spoliées de manière générale, les populations locales étaient victimes de ce type d'agissement par leurs dirigeants, en lien avec des entreprises françaises notamment. Mais sur l'indemnisation de ce qu'est une population spoliée, c'est très difficile d'avoir une représentation, d'avoir une incarnation à l'audience. Alors on indemnise assez volontiers, notamment dans le cadre des CEGIP, les ONG agréées qui souhaitent chiffrer leurs préjudices, mais c'est une indemnisation qui, puisque le préjudice n'est pas direct pour ces associations, mais plutôt indirect, on va indemniser, négocier une indemnisation qui représente en fait les frais d'avocats qui ont pu être engagés dans le cadre de l'action de l'ONG en question. Il y a des réflexions en cours sur un élargissement du champ de l'indemnisation, notamment sur le retour aux populations spoliées des sommes qui ont permis la corruption. C'est un sujet en réflexion, c'est pas un sujet qui est encore mûr à l'heure où je vous parle, mais qui fait partie effectivement des réflexions du Parquet national financier, parce qu'on sait qu'il y a une énorme attente citoyenne là-dessus.
Alors, on voulait parler maintenant des défis que le PNF est susceptible de rencontrer dans le cadre des enquêtes financières qu'il conduit. Il y a une première question qui nous est venue quand on a lu qu'en 10 ans, le PNF a tout de même lancé plus de 3000 procédures et permis à l'État d'encaisser plus de 12 milliards d'euros. Et pourtant, la justice, et plus particulièrement la justice financière, reste encore sous-dotée. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un service qui rapporte autant au Trésor public manque encore aujourd'hui de moyens ? Et donc, où est l'argent, oserait-on demander ?
Alors, c'est une excellente question. On peut dresser un constat aujourd'hui, c'est que quand on regarde la feuille de route qui a été fixée par le législateur en 2013 au PNF et la situation où nous en sommes aujourd'hui, manifestement, cette feuille de route a plutôt été respectée. Faire cesser l'impunité des cols blancs, permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, l'argent fraudé ou l'argent détourné. Je crois que les chiffres que vous avez donnés, avec plus de 12 milliards d'euros qui sont retournés dans le giron du budget général de l'État, c'est plutôt une réussite. La question qui peut se poser, c'est maintenant qu'on a testé l'instrument Parquet national financier, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Alors pour aller un petit peu plus loin, il faut des moyens. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut aussi le dire, c'est qu'il faut des moyens. On n'est pas dépourvu de moyens au Parquet national financier, on a une belle équipe d'une vingtaine d'effectifs, avec des assistants spécialisés, etc. Donc on peut certainement continuer à croître, c'est une possibilité, mais ça, je dirais, c'est au pouvoir politique de le décider, c'est pas à nous de le décider. Ce qu'on observe par ailleurs, c'est qu'il y a un vrai problème de pénurie des enquêteurs, des services d'enquête, qui sont des gens extrêmement motivés, extrêmement compétents, qu'on parle de l'OCLIF, qu'on parle des services de la préfecture de police de Paris ou des services de police judiciaire ou de gendarmerie. On a des gens très motivés, mais malheureusement, dans des quantités, des effectifs qui sont insuffisants pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des quelques 771 procédures qui sont actuellement en cours au Parquet national financier et qui sont toutes d'une extrême complexité. Donc c'est compliqué pour un enquêteur de prendre en charge plus de une ou deux procédures simultanément. Un des sujets qui a pu être évoqué, c'est l'opportunité de créer un fonds d'affectation spécial en matière financière ou un faible, petit pourcentage, par exemple, des amendes d'intérêt public négociées dans le cadre des CEGIP pourraient être reversées sur ce fonds qui serait un fonds destiné à aider à la modernisation des moyens d'action, notamment en matière informatique, en matière immobilière, en matière diverses et variées, en puisant dans ce fonds. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans certains pays. Hein. C'est notamment le témoignage du parquet de Manhattan aux États-Unis qui a effectivement procédé de la sorte à l'issue de certains Deferred Prosecution Agreement. Donc on pourrait effectivement imaginer, si les pouvoirs publics le souhaitent, d'avoir ce fonds d'affectation spécial qui permettrait d'aider au recrutement aussi et à la formation des enquêteurs spécialisés, qui est vraiment aujourd'hui voilà, le domaine où on a le plus d'attentes, parce qu'un magistrat seul, il ne peut pas faire grand-chose. Il a besoin d'avoir des bons enquêteurs de police, de gendarmerie, et motivés qui puissent effectivement réaliser ces demandes d'actes d'enquête.
Alors, outre la problématique des moyens, des moyens en matière de poursuite et d'enquête, il y a également la problématique de la coopération internationale. Et on le sait, les flux financiers illicites ne connaissent pas de frontières. Et les montants investis, les produits de la corruption sont parfois, voire souvent, localisés dans des juridictions tierces peu coopératives. Quels sont les principaux défis aujourd'hui en matière de coopération internationale et quelles pistes d'amélioration identifiez-vous ?
Alors, il est vrai que l'action internationale dans nos dossiers est absolument essentielle. Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais je pense que facilement, un dossier sur deux, vous conduit par le PNF, voire deux sur trois, vous avez besoin d'envoyer des demandes d'entraide pénale internationale à l'étranger ou des décisions d'enquête européenne au sein de l'Union européenne. C'est devenu assez rare, les enquêtes purement franco-françaises. Donc, il y a quand même très souvent un élément d'extranéité, et fort opportunément, quand il y a ce type d'élément d'extranéité, les délinquants en col blanc ont tendance effectivement à se tourner vers des places non coopératives sur le plan judiciaire ou sur le plan fiscal, donc des paradis fiscaux et des paradis judiciaires. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a des listes grises d'ailleurs qui sont établies notamment par le GAFI pour les pointer du doigt, c'est un peu le name and shame du GAFI.
Le groupe d'action financière, aussi appelé le GAFI, est un organisme intergouvernemental qui édicte des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il évalue ensuite les dispositifs législatifs et pratiques des pays sur la base de ces standards.
L'OCDE aussi dénonce ces paradis judiciaires et paradis fiscaux dans le cadre des travaux de son groupe anticorruption. Et c'est un fait que, effectivement, vous avez certains pays qui coopèrent mal ou qui ne coopèrent pas. Donc des places financières est devenu extrêmement compliqué. Alors pour en citer une parmi d'autres, mais vous avez notamment le cas de Hong Kong qui est devenu extrêmement compliqué parce qu'il n'y a plus d'entraide judiciaire avec Hong Kong. Donc suite aux décisions politiques des autorités chinoises. Donc on a un vrai sujet lorsqu'il y a des investigations à réaliser dans ce type de pays, parce que c'est une véritable boîte noire pour nous. Donc on est obligé de travailler sous d'autres angles, de reconstituer les flux. Vous demandez où va l'argent, ben voilà, c'est la question. C'est quand l'argent va quelque part, est-ce qu'on a les possibilités derrière d'aller récupérer cet argent, de la tracer de bout en bout dans nos affaires de blanchiment ? Ça, évidemment, c'est pas une chose parfaitement aisée.
Alors peut-être juste pour poursuivre très rapidement, lorsqu'on fait face à une boîte noire, à une véritable impasse en matière d'enquête, est-ce que l'enquête s'arrête si on n'arrive pas à trouver d'autres stratégies, d'autres infractions à caractériser ? Est-ce que c'est malheureusement la réponse ?
Alors, au PNF, on a plutôt tendance à pas renoncer facilement. C'est-à-dire que quand on identifie une situation potentiellement délictuelle, on va se donner les moyens, de tous les moyens possibles pour essayer d'établir les faits et de rapatrier les fonds et les personnes mises en cause. Toutefois, force est de constater que parfois, même la meilleure volonté du monde ne permet pas de surpasser ces difficultés, qui sont des difficultés de coopération internationale où voilà, le pouvoir politique peut aussi être amené à se mobiliser pour faciliter les choses. Il y a notamment Dubaï, pendant longtemps, a été considéré comme un paradis judiciaire. On a bien vu que les actions successives des derniers gardes des Sceaux, très très volontaires vis-à-vis des autorités de Dubaï, ont permis d'améliorer sensiblement les choses. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il est facile de coopérer avec Dubaï, mais en tout cas, je pense que les choses sont plus aisées aujourd'hui qu'elles n'ont pu l'être ces dernières années. Donc, quand effectivement la chancellerie se donne les moyens, elle peut arriver aussi à faire sauter un certain nombre de verrous, et c'est heureux. Donc nous, on se repose beaucoup aussi là-dessus. Hein. On a aussi un certain nombre de rapports qu'on est amené à faire à nos autorités hiérarchiques pour leur signaler justement que tel ou tel pays, on a des difficultés de coopération. Donc il serait bien qu'une action soit menée au niveau central pour débloquer ça. Donc on a vu des progrès, par exemple, sur Dubaï, assez nets. Et donc, je pense que la chose est possible, mais c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement.
Il me semble qu'à Dubaï, il y a eu la mise en place d'un magistrat de liaison, d'ailleurs, qui a peut-être facilité aussi la coopération
sur ces affaires. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'une des armes et une des forces du système judiciaire français, c'est d'avoir créé cette notion de magistrat de liaison, hein, dans les années, je crois que c'est les années 90, à l'époque, c'était Jacques Chirac qui était président. Et le premier magistrat de liaison avait été installé à l'époque en Italie. Mmh. Et puis, ça a fait florès, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des magistrats de liaison dans un certain nombre de pays, notamment, c'est le cas, je sais pas, par exemple, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, mais également d'autres pays. Plus récemment, on a effectivement Dubaï, très récemment, l'Asie du Sud-Est aussi, on a un magistrat de liaison régional. Donc ce sont effectivement des magistrats français qui généralement travaillent auprès ou à l'intérieur des ambassades et en liaison avec les ministères de la justice locaux pour jouer un rôle d'intermédiaire, de facilitateur lorsqu'il y a des demandes d'entraide qui sont envoyées vers ces pays. Voilà, on a un relais sur place qui aide à pousser et à s'assurer que les demandes sont bien effectivement exécutées. Donc ça, c'est effectivement très précieux. Et ça a été repris par un certain nombre de pays. Hein. Vous avez des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, etc., qui ont eux-mêmes créé leur propre réseau de magistrats de liaison. Je ne sais pas, les justices attachées à l'étranger. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un instrument à la frontière de la diplomatie et du judiciaire, je dirais, mais qui effectivement nous aide beaucoup à faire décanter les situations dans certains pays.
Alors pour en finir avec les défis que vous êtes susceptibles de rencontrer, on l'a vu ces derniers temps, les attaques contre l'autorité judiciaire semblent se multiplier, gagner en intensité. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Et si oui, comment peut-on y faire face?
Bah, en tant que citoyen, je ne peux être que interpellé par un certain nombre de critiques qui sont de plus en plus manifestées clairement, de manière de plus en plus audible, contre le concept même d'état de droit. L'état de droit qui a totalement partie liée avec des concepts comme l'indépendance de la justice ou l'impartialité de la justice. Les gardes légitimes de l'état de droit, ce sont les magistrats. Donc oui, c'est un sujet évidemment d'inquiétude parce que c'est quelque chose de relativement récent dans notre pays. Il y a eu pendant longtemps une unanimité à défendre le concept d'état de droit. Et aujourd'hui, on voit effectivement un certain nombre de critiques très sonores qui sont formulées. Donc, contre l'état de droit et contre les excès supposés d'un gouvernement des juges, de juges qui seraient insuffisamment redevables de leur action. Donc on ne peut que observer effectivement ces tendances de fond avec une certaine forme d'inquiétude, mais qui n'est pas propre uniquement à la France, qu'on retrouve effectivement dans un certain nombre de pays, hein, qu'on en parle avec des collègues par exemple italiens, vont dire qu'ils sont de longue date confrontés à cela. Donc nous ne sommes pas complètement seuls dans cette situation. Je crois qu'il faut savoir garder son sang-froid. Il n'y a pas de c'est fait partie du débat public et je crois que nos concitoyens sont suffisamment éclairés pour savoir aussi ce qu'est une démocratie mature. Une démocratie mature, c'est une démocratie où la séparation des pouvoirs et les contre-pouvoirs sont forts, hein, c'est ce que nous apprend Tocqueville. Donc je crois qu'il faut faire confiance aussi à l'intelligence et la maturité de nos concitoyens sur ces sujets.
Alors maintenant, une petite série de questions un petit peu plus personnelles sur votre parcours. Au cours de votre carrière, vous avez été amené à travailler aussi bien en juridiction, en administration centrale, au sein du ministère de la Justice, puis en tant que conseiller auprès du garde des Sceaux, avant enfin de rejoindre le parquet national financier. Nous avons de nombreux étudiants qui nous écoutent et pour qui les contours du métier de magistrat sont pas forcément bien définis ou pour qui le métier paraît encore inatteignable. Pourriez-vous nous parler de la diversité de votre parcours et ce que ce métier offre comme perspective et comme débouché?
Alors, je vous mentirais si je ne vous disais pas que je trouve que c'est un métier absolument formidable. Formidable parce que c'est un métier dans lequel on a le sens de la mission de service public. On sait que voilà, on a cet objectif le matin quand on se lève, c'est qu'on est là pour travailler pour l'intérêt public, pour le service public de la justice, et le service public au service de nos concitoyens. Donc c'est déjà en soi une forme de rétribution symbolique qui est très très forte, qu'on peut retrouver dans d'autres métiers d'ailleurs, hein, mais qui est vraiment très très puissante dans la magistrature. Donc il y a cet attachement à l'état de droit, cet attachement à la démocratie qui caractérise, je pense, le sentiment de bon nombre de nos confrères magistrats. L'autre aspect qui est très séduisant, je trouve, enfin moi qui m'a séduit et continue à me séduire, c'est que c'est mille travail en un. C'est-à-dire que vous commencez des fonctions, peut-être comme moi j'avais pu le faire comme substitut, puis vous pouvez devenir juge aux affaires familiales, vous intéresser à la situation des familles, ou juge des enfants, puis vous pouvez retourner au parquet dans une cour d'appel, ou dans un parquet spécialisé comme le PNF, ou même encore aller en administration centrale, comme j'ai pu le faire à la direction des affaires criminelles des grâces, faire de la légistique, c'est-à-dire travailler sur la rédaction des textes de loi qui sont ensuite soumis au Parlement. Donc il y a une vraie richesse dans les fonctions, on n'est pas cantonné à une seule et même fonction toute sa carrière, on a la possibilité, quand on a cette curiosité intellectuelle, de pouvoir évoluer et faire des emplois très différents en réalité, hein, des missions très différentes. Donc ça c'est très très riche, et puis enfin je crois que ce qui est très attractif, c'est un goût pour le raisonnement intellectuel, pour le syllogisme, voilà, pour le raisonnement dans la matière juridique qui fait quand même le cœur de notre action, mais toujours ancré dans des problématiques sociétales.
Alors nous arrivons au bout de cette interview et il y a une question que nous aimons bien poser à nos interlocuteurs. Est-ce que vous pourriez nous partager l'un de vos souvenirs les plus marquants au cours de votre carrière professionnelle et qui soit en lien avec la matière qui nous intéresse ici ?
Souvenir marquant, je pense que c'est toutes les premières fois. J'ai deux premières fois qui m'ont particulièrement marqué. La première fois que je suis allé aux assises en tant qu'avocat général, requérir devant la représentation populaire, hein, c'est vraiment l'excellence même de la représentation du peuple en matière judiciaire, c'est la cour d'assises, donc c'est très impressionnant. Vous requérez devant non seulement des juges professionnels, mais également des juges issus des tirages au sort. Donc ça m'avait beaucoup impressionné. C'est vraiment un sentiment très 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 fort, vraiment très fort. Et puis une autre première fois, c'est je crois la première fois que j'ai accompagné un garde des Sceaux au banc à l'Assemblée nationale, où pour la première fois vous êtes devant la représentation de nos concitoyens, la représentation populaire, et vous devez, quand vous êtes au banc avec près du ministre, lorsque des questions lui sont posées, gratter très rapidement des éléments de langage pour l'aider à répondre aux questions qui sont posées. Donc c'est très très grisant, et c'est vraiment un souvenir, qui m'a beaucoup marqué. C'était très très impressionnant de se retrouver face à la souveraineté populaire. Donc voilà, première fois devant des jurés tirés au sort et première fois devant des représentants du peuple français.
Ce qui montre bien la diversité d'ailleurs de ce métier.
Exactement.
Finalement.
Tout à fait.
Les diverses facettes. Jérôme Simon, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Merci à vous.
C'était Où va l'argent ? Le podcast de Transparency International France. Pour aller plus loin, retrouvez nos actualités et l'ensemble des épisodes sur notre site internet transparency-france.org et sur nos réseaux sociaux.